Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce vendredi matin est Antoine Oliviero. Il est responsable du Rassemblement national de la 3e circonscription du Morbihan. Il est également délégué départemental adjoint du RNJ 56, donc du Rassemblement national jeune du Morbihan. Et il a fait la route pour être avec nous en direct ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors on va parler, je le disais en commençant ou en vous présentant en tout cas tout à l'heure au gré de la matinale, de politique. On va aussi parler des municipales et du Rassemblement national évidemment qui commence à prendre un peu d'ampleur justement en vue de ces municipales. On a vu une féminisation des effectifs, on a vu un rajeunissement aussi des effectifs. Est-ce que le Rassemblement national a finalement tourné la page du Front national?
Bah écoutez, tourner la page, c'est peut-être un grand mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, effectivement. Bah, comme vous le disiez, je suis délégué départemental adjoint du RNJ Morbihan. On a beaucoup de jeunes qui arrivent, on les voit arriver. L'objectif au Rassemblement national de la jeunesse, c'est tout d'abord de faire des jeunes des bons militants, puis d'en faire des bons cadres et peut-être certainement des futurs bons élus. C'est vraiment l'objectif du Rassemblement national de la jeunesse. Et on voit vraiment une arrivée assez impressionnante de jeunes. C'est toutes les semaines, en fait, finalement, que des nouveaux jeunes nous rejoignent et rejoignent la dynamique. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a actuellement.
Alors, justement, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au Rassemblement national? Une façon d'aborder la politique, une façon différente de faire de la politique?
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au Rassemblement national, on fait confiance aux jeunes. C'est aussi quelque chose qui nous démarque de nos adversaires. On n'est pas dans un parti de vieux barons, surtout en Bretagne. Aujourd'hui, ici, il y a peu d'élus. Donc, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est une chance, d'un côté, de ne pas avoir beaucoup d'élus parce que ça permet à des jeunes de se lancer en politique. Et le Rassemblement national fait confiance massivement aux jeunes, comme vous l'avez dit.
Alors, avec des villes à conquérir, des communes également hein, dans la campagne, hein, parce qu'on sait que le Rassemblement national est très attaché à la ruralité, est-ce qu'on pourrait voir arriver une vague bleu foncé, hein, c'est un petit peu ce qu'on met sur les cartes habituellement, est-ce que vous l'imaginez ça pour les municipales?
Bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite, hein, en tout cas au national, on espère gagner de grandes villes, on espère aussi gagner beaucoup de villes de moins de 20 000 habitants, c'est je pense des villes que nous allons vraiment, enfin il y a vraiment beaucoup de villes que nous allons pouvoir remporter, des villes de moins de 20 000 habitants, surtout dans le nord de la France, dans le sud de la France, où nous allons avoir, je pense, une vague bleu marine, comme vous l'avez dit. Ici, l'objectif va être simple, on va peut-être gagner des mairies, au moins rentrer dans les conseils municipaux. Il y a beaucoup de conseils municipaux dans lesquels nous ne sommes pas aujourd'hui, et l'objectif serait vraiment d'y rentrer. On est en train de monter de belles listes dans plusieurs villes de Bretagne. Dans le Morbihan, on a 5 listes aujourd'hui. Et on a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui sont tête de liste dans le Morbihan et ça va nous permettre de passer la porte, je pense, des conseils municipaux.
Alors avec des villes test, hein, on pense à Lorient, oui, évidemment, ou un peu plus au bout de la terre à Brest. On pense aussi à Rennes qui pourrait voir arriver des conseillers municipaux du Rassemblement national.
Bah écoutez, c'est à souhaiter. Il y a une belle liste qui est montée par Julien Masson qui aujourd'hui, je pense, peut dépasser les 10% à Rennes. Rennes est enclin aujourd'hui à une insécurité grandissante. On l'a vu rien que le week-end dernier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La nuit du samedi au dimanche, il y a eu une fusillade et un meurtre, tout ça dans la même nuit. Aujourd'hui, on a à faire une véritable mexicanisation de Rennes. C'est aujourd'hui je pense, des éléments qui montrent aux électeurs que le Rassemblement national est certainement la solution dans des villes comme Rennes qui sont aujourd'hui enclin depuis 40 ans aujourd'hui au socialisme et on voit aujourd'hui les résultats de ces politiques menées depuis 40 ans par les socialistes.
Alors on va parler des grands sujets de la campagne et y compris de l'insécurité, mais ce serait une première de voir la Bretagne voir cette progression importante du Rassemblement national. On n'est pas dans une terre d'élection à l'origine du Rassemblement national. Souvent on dit la Bretagne en haut à gauche, hein, c'est plein de significations.
Alors la Bretagne était une terre de mission, elle est devenue une terre d'élection pour le Rassemblement national. On l'a vu lors des dernières élections législatives. Je peux même parler de ma propre candidature dans la 3e circonscription du Morbihan. Lors du premier tour, j'ai fait 36% des suffrages. Nicole Le Peix, la candidate macroniste, était à 26% et la candidate de la France insoumise était à 20%. Donc sans ce pseudo-barrage républicain, j'aurais certainement remporté cette circonscription. Nous espérons, avec le Rassemblement national, remporter des circonscriptions lors des prochaines élections législatives, qu'elles soient anticipées ou en 2027. C'est aujourd'hui, la Bretagne est vraiment une terre d'élection aujourd'hui pour le Rassemblement national.
Alors, on a entendu un ancien président de la République qui vient de commettre un livre récemment s'exprimer à propos du Rassemblement National après un échange qu'il a eu avec Marine Le Pen. Vous aurez deviné qu'il s'agissait de Nicolas Sarkozy qui a dit que lui, en ce qui le concerne, le temps opportun, il parlera et il n'appelle pas à un barrage républicain. En gros, est-ce que le fameux barrage républicain a fait long feu ?
Bah écoutez, je pense qu'il a montré ses limites, surtout lors des dernières élections législatives. On a vu ce que cela a donné, c'est-à-dire que le Rassemblement national aurait dû avoir une majorité à l'Assemblée nationale qu'il n'a pas obtenue. Suite à ce barrage, on a vu des accords d'appareil qui semblent aujourd'hui improbables. Des gens qui appellent à voter pour Madame Borne alors qu'ils étaient dans la rue quelques semaines avant pour manifester contre la réforme des retraites. On sent aujourd'hui en fait que tout cela n'a été que du bidouillage politique pour permettre à certains de garder leur poste. Et ça a d'ailleurs été le cas lors du vote de la motion de censure dernièrement, où beaucoup de députés, voire les députés LR qui n'ont rien obtenu lors de ce budget, finalement se retrouvent à voter ce budget pour ne pas aller devant les électeurs, puisque nous, au Rassemblement National, nous appelons encore à une dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir aujourd'hui avoir une majorité claire à l'Assemblée et permettre à la France d'avoir enfin un gouvernement qui puisse agir. C'est surtout ça l'important.
Alors on va en parler du gouvernement, de la situation politique et du budget. Juste un dernier mot sur le Rassemblement national. Qu'est-ce qui fait encore peur aujourd'hui ? Est-ce que le Rassemblement national finalement fait peur ? Et pourquoi selon vous ?
Bah écoutez, moi je ne pense pas que le Rassemblement national fasse peur aujourd'hui. Hein, quand on voit les derniers sondages qui nous sont très favorables, après il faut toujours se méfier des sondages, mais aujourd'hui nous sommes donnés gagnants au second tour de l'élection présidentielle, peu importe l'adversaire. Donc je ne pense pas que l'on fasse peur aujourd'hui. Je pense qu'une majorité de Français sont prêts à passer le pas et voter pour le Rassemblement national.
Il y a un effet Jordan Bardella, jeune homme prometteur, qui écrit lui aussi des livres. Est-ce que Jordan Bardella a aussi un peu dopé la jeunesse pour qu'elle rejoigne aussi les rangs du Rassemblement national ?
Complètement. On l'a vu lors des élections européennes de 2024. Il y a vraiment une dynamique Jordan Bardella. Ce serait faux de dire l'inverse. On a vraiment vu beaucoup de jeunes arriver suite à cet effet Jordan Bardella, mais ça a aussi permis de politiser des jeunes en fait, finalement, que l'on ne voyait pas à la politique, et ce n'est pas forcément que de la politique TikTok comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella a aussi amené finalement ce dynamisme qui manquait peut-être un petit peu au Rassemblement National et qui nous permet aujourd'hui de cibler une cible que l'on n'avait pas à l'époque, et aujourd'hui des jeunes qui se politisent et qui s'intéressent à la politique. C'est aussi l'objectif de cette communication.
Avec évidemment l'incertitude sur le sort de Marine Le Pen. Les juges doivent trancher, savoir si elle sera éligible ou pas. Pour vous, c'est injuste finalement ce qui lui arrive ou alors c'est la justice qui suit son cours ?
Bah écoutez, on sait plutôt, on a vu que c'était un jugement politique. C'est surtout ça qui est dérangeant, c'est qu'aujourd'hui Marine Le Pen est touchée d'une exécution provisoire, et ce qui est aujourd'hui très lourd, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont passées pour les mêmes sujets, comme François Bayrou, hein, qu'on a pu voir derrière, même être Premier ministre. Il n'a pas écopé finalement de cette sanction-là. La juge a même dit pendant le procès que finalement ça lui aurait fait trop mal de ne pas sanctionner Marine Le Pen. Donc on verra en appel. Faisons confiance à la justice. L'appel commence au mois de janvier. On aura une réponse avant l'été. Nous souhaitons aujourd'hui toujours que Marine Le Pen soit notre candidate pour l'élection 2027.
On parlait du budget tout à l'heure. Le budget de l'État, très difficile à obtenir, on l'aura compris, Antoine Oliviero. Avec 7 députés, 7 sénateurs qui vont se réunir tout à l'heure, ça va se passer à 9h30 au Palais Bourbon, pour décider finalement du texte et pour essayer de négocier une fois encore, avec quand même un grand pessimisme. Il y a un pari du Premier ministre, de Sébastien Lecornu, qui aurait voulu que ce texte soit voté en fin d'année. On s'achemine a priori plus vers une loi spéciale. Est-ce que c'est dommageable pour la France ? Est-ce que c'est dommageable pour les Français ?
C'est dommageable, oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit de toute façon que ce budget n'est pas un budget, finalement, qui est viable pour la France. Il ne s'attaque pas aux grands sujets tabous, en fait, finalement, qui aujourd'hui sont des éléphants dans le salon, que sur l'immigration, la dépense publique, aujourd'hui, qui pose problème. On voit qu'aujourd'hui, avec ce budget, vous avez des augmentations des tarifs des mutuelles, une hausse de la CSG sur l'épargne, il y a des coupes budgétaires dans les hôpitaux, c'est plus de 2,5 milliards de taxes, il n'y a rien sur l'immigration, rien sur la fraude et rien sur la bureaucratie. Nous, c'est un budget qui, de toute manière, ne nous convenait pas. Donc, c'est pas forcément un problème.
C'est sans surprise, le Rassemblement national ne votera pas le budget.
Non.
On peut imaginer que si le budget n'est pas adopté, donc il y aura cette loi spéciale qui permettra néanmoins de continuer à faire fonctionner l'État, en tout cas d'un point de vue budgétaire, et sans doute une discussion à nouveau, une rediscussion en janvier. Pour vous, c'est du chaos tout ce qui se passe aujourd'hui. On n'atteint pas la cible finalement.
Écoutez, le chaos, il a été créé lors des élections législatives de 2024. Encore une fois, si on avait laissé les Français s'exprimer comme ils le souhaitent et le Rassemblement national avoir une majorité, nous ne serions pas dans cette situation. Aujourd'hui, on a des accords à l'Assemblée nationale qui sont tout simplement lunaires. Ça va du Parti socialiste jusqu'aux Républicains. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde finalement pour sauver son siège. Et le chaos, il vient de là. Il vient de ces élections qui ont été tronquées en fait finalement en 2024.
On le voit, le Parti socialiste est quand même très courtisé par le gouvernement, par Sébastien Lecornu, pour faire simple. Parti socialiste qui se laisserait aller finalement peut-être à un 49-3. Pour vous, c'est une reculade ou là encore, c'est des petits arrangements?
Nous verrons, puisque Sébastien Lecornu avait annoncé qu'il n'utiliserait pas l'article 49-3 lors du vote du budget. Donc nous verrons ce qui va se passer.
S'il y avait une dissolution, le Rassemblement national aujourd'hui est en campagne permanente, il est prêt à y aller, comme on dit?
Tout à fait. Aujourd'hui, le Rassemblement national a préinvesti ses candidats pour les prochaines élections législatives. Les candidats sont formés. Aujourd'hui, les candidats ont été aussi sélectionnés, bien sûr.
Il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé de brebis galeuses dans la précédente, sélection, si vous me permettez le terme.
Le terme brebis galeuse, en fait, finalement, il concerne peut-être une dizaine de personnes. Je lisais un article de Mediapart cette semaine, le Rassemblement national ressort ses brebis galeuses. Déjà, moi, j'ai une confiance qui est très limitée, en fait, finalement, envers Mediapart, parce qu'aujourd'hui, c'est un média qui, aujourd'hui, attaque mais des cibles dans le dos des gens. Moi-même, j'ai été la cible, d'ailleurs, de Mediapart l'an dernier. Ces gens-là, au fait, aujourd'hui, écrivent des fake news tout simplement, sans problème. C'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est un organe de propagande, Mediapart. Ils ont titré en une, le vendredi, avant le premier tour des élections législatives, « Votez Nouveau Front Populaire ». À partir de là, on ne parle pas d'un média, mais on parle bien d'un organe de propagande.
Il y a des médias, finalement, qui sont des médias d'opinion. Alors, vous citez Mediapart, on pourrait citer CNews ou Europe 1 en face. Finalement, c'est bon qu'il y ait des médias d'opinion, mais il faut les identifier.
Complètement. Après, ce qui est important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Mediapart vit avec beaucoup de subventions, mais aussi, surtout, fait du journalisme d'investigation. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand on prend Europe 1, CNews, c'est moins du journalisme d'investigation, ça va plutôt être de l'information continue. Quand on fait du journalisme d'investigation, aujourd'hui, ça me semble important de savoir à qui on a affaire, savoir qui mène le combat en face. Là, aujourd'hui, effectivement, quand vous avez affaire à Mediapart, vous savez à qui vous avez affaire, vous avez affaire à l'extrême gauche.
Il y a aussi tout un débat autour de l'audiovisuel public. On le voit avec une possible demande de privatisation. En tout cas, c'est ce qui court depuis un moment dans les rangs du Rassemblement national et même d'autres formations politiques, peut-être à plus bas bruit. Il faut le privatiser, l'audiovisuel public, selon vous?
Tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est plus aux Français de payer pour cette propagande, en fait, finalement, d'extrême gauche. Et on le voit en ce moment, il y a une commission qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale concernant l'audiovisuel public. Et on voit que l'audiovisuel public patauge aujourd'hui. Pour se défendre de ce pseudo-acquaintance avec la gauche. Ça se voit, les Français ne sont pas dupes. Quand vous regardez encore le traitement qu'a subi Jordan Bardella lors de l'émission de samedi soir sur le plateau de celle de Léa Salamé, d'ailleurs, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que fait à la une du 20h la compagne de Raphaël Glucksmann, qui est sans doute le candidat de la gauche pour les prochaines élections présidentielles? C'est quand même une question qu'on peut se poser. En termes de pluralité, ça devient quand même compliqué. Je pense effectivement que c'est pas aux Français de payer. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. Je pense qu'aujourd'hui, la France cherche de l'argent. 4 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Donc si on peut les récupérer, c'est effectivement de ce côté-là qu'on ira les chercher.
Et pourtant, souvent, les pouvoirs qui sont arrivés en place, quelle que soit là aussi la couleur politique, ont toujours eu une haute bienveillance sur l'audiovisuel public, façon peut-être aussi de le contrôler. C'est peut-être dangereux de ne pas garder un petit peu d'audiovisuel public.
Alors nous sommes pour supprimer l'audiovisuel public, hormis Arte, parce que c'est une chaîne en fait finalement qu'on trouve intéressante, qui fait de beaux reportages d'ailleurs. Il y a en fait aujourd'hui des médias aujourd'hui quand vous regardez un média, vous savez à qui vous avez affaire. Mais sauf que quand vous regardez l'audiovisuel public, aujourd'hui vous n'avez affaire qu'à des gens de gauche, voire d'extrême gauche. Quand on voit Patrick Cohen et Thomas Legrand qui sont à discuter des stratégies de campagne de Raphaël Glucksmann, moi aujourd'hui je suis désolé, mais ce n'est plus aux Français de payer pour ça.
L'audiovisuel public, il y a aussi l'audiovisuel plus local, les radios associatives. J'avais envie qu'on en dise un mot ce matin, parce qu'on va parler du budget toujours et encore, budget qui risque de voir les aides publiques aux radios associatives très amputées, 44% quand même. Bon, même si pour l'instant, l'aide publique se maintient, est-ce que vous êtes là aussi pour réduire la voilure pour les radios associatives, ou est-ce que vous vous dites que finalement il faut des médias de proximité, des médias de terrain ?
Alors bien sûr, en fait, il faut des médias de terrain, ça nous sommes tout à fait d'accord, des radios associatives. Après, aujourd'hui, effectivement, il y aura des économies à faire, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, j'ai pas directement en tête le budget des radios associatives, ce que nous allons faire sur le budet des radios associatives.
C'est 32 millions d'euros, hein,
ouais,
le budget.
C'est pas aujourd'hui, je pense que c'est pas la priorité dans les dépenses de l'État, en tout cas.
Alors, il y a aussi d'autres secteurs. On va parler de l'agriculture dans un instant. Je voulais juste terminer sur le budget. Le budget, c'est aussi des services publics. Il y a trop de services publics en France, ou au contraire, il faut réorganiser le service public et le mieux financer?
En fait, le problème en France, ce n'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on dépense mal. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un État trop dépensier, effectivement, mais qui dépense vraiment... Enfin, qui dépense mal, ça c'est sûr. On voit qu'il y a des dépenses qui sont inutiles. Il y a des doublements, en fait, finalement, de... Enfin, il y a des doublons, en fait, finalement, de...
Des agences,
d'agences, forcément. Et on a des agences, des choses comme l'ADEME qui sont complètement inutiles. Vous avez les ARS qui sont complètement inutiles, qui font doublon avec les services de l'État. C'est des choses, ça, que nous voulons supprimer, effectivement, avec le Rassemblement National.
Alors, il y a une agence, c'est l'Institut National de la Consommation, l'INC, qui publie 60 millions de consommateurs, qui va peut-être disparaître. En tout cas, sa disparition est actée. C'est dangereux de s'attaquer aux consommateurs, parce qu'ils ont besoin aussi de l'information.
Bien sûr, il faut garder des associations de consommateurs. Ça, je suis d'accord avec vous.
Ouais. Voilà. Même si elles reçoivent des aides directes de l'État.
Bah après, on ne va pas couper toutes les aides de l'État demain, hein, c'est en arrivant au pouvoir. C'est-à-dire que par contre, il faut regarder où l'État dépense. Il y a quand même des dépenses effectivement prioritaires plus que d'autres. Dont, pareil, tout à l'heure, on en parlait, l'audiovisuel public, 4 milliards par an. L'immigration, aujourd'hui, auquel on ne touche pas. Là, ça, d'ailleurs, on en parle. On parlait du budget tout à l'heure. C'est quand même assez dingue qu'un sujet comme l'immigration n'ait pas été mis sur la table. L'immigration, c'est 50 milliards d'euros par an. Nous avons proposé un contre-budget où nous pouvons faire une économie de 12 milliards d'euros dès la première année sur l'immigration. Tout cela, en fait, finalement, ce débat n'a pas eu lieu à l'Assemblée nationale. On a en fait débattu de choses qui ne sont pas prioritaires pour les Français.
On va revenir sur l'immigration, mais je voudrais vous entendre aussi sur l'agriculture. Les agriculteurs, les paysans sont aujourd'hui dans la rue. Ils se sont fait entendre à Bruxelles hier. Il y a deux sujets d'inquiétude, évidemment. Il y a le Mercosur, dont la signature est reportée en janvier, et l'épidémie de dermatose nodulaire et l'abattage des troupeaux. On ne les écoute pas assez, les agriculteurs. Ils sont en voie de disparition, les agriculteurs.
Comme vous venez de le dire, hein, ce qui se passe avec la DNC, c'est le coup de massue, en fait, finalement, pour les agriculteurs. Ils sont déjà fortement touchés, effectivement, avec le traité du Mercosur dont on parle, et le Rassemblement National est en tête de gondole aujourd'hui pour défendre les agriculteurs face à ce funeste traité qu'est le Mercosur. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a 20% qui sont annoncés de baisse de la PAC, qui sont annoncés prochainement, peut-être pour 2026. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas une variable d'ajustement pour le budget de l'Union européenne. Il faut savoir aujourd'hui, donc quand on parle de 20% de la baisse de la PAC, il faut savoir aussi que la France est premier contributeur net au budget de l'Union européenne. Donc on se demande aujourd'hui où passe notre argent. Si c'est pour faire comme ça, on saura mieux le distribuer, il n'y aura pas de problème.
On les a vus, les agriculteurs, très, très remontés, très en colère contre les instances européennes. Il y a eu des drapeaux européens qui ont été brûlés. On a revu ressortir un mot qu'on n'avait pas entendu depuis un moment, Frexit. Il faut la quitter, l'Europe, ou il faut rester et la faire fonctionner différemment?
L'Europe, on n'est pas pour la quitter. L'Europe, on est pour la changer de l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réussir à avoir des accords au Parlement européen. C'est que le Parlement européen ne fonctionne pas comme le Parlement français. C'est un Parlement où il y a beaucoup de compromis. On arrive avec le groupe des Patriotes pour l'Europe à faire des accords avec le PPE. Le PPE, c'est le parti, en fait, finalement, des Républicains au Parlement européen. On arrive à avoir des accords sur certains sujets. Le Parlement est en train de changer, est en train de tourner à droite. Aujourd'hui, on est en train de changer les choses de l'intérieur. On a beaucoup d'alliés en Europe. Le groupe des Patriotes pour l'Europe est le troisième groupe et le premier groupe d'opposition au Parlement européen. Il effectue un travail assez impressionnant aujourd'hui, que ce soit pour nos agriculteurs, que ce soit contre l'immigration, que ce soit sur beaucoup de sujets. On est aujourd'hui très, très présent au Parlement européen et on voit que la donne est en train de changer en Europe.
Alors on voit là encore le Premier ministre Sébastien Lecornu à la manœuvre. Au moment où nous parlons, il reçoit des représentants de quatre principales organisations agricoles. agricole pour tenter de désamorcer la crise, pour tenter d'avoir un dialogue. Est-ce que pour vous, c'est peine perdue ou là encore, il faut essayer de garder le fil ténu du dialogue ?
Bah écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu mal au cœur la semaine dernière en voyant les agriculteurs mis face en fait finalement à nos forces de l'ordre quand on envoie des centaures face à des agriculteurs parce qu'on vient pour abattre un troupeau.
Il y avait une volonté politique, c'est au-delà de la maladresse ?
Je pense qu'il y a une erreur politique. En tout cas, je pense que le ministre s'est rendu compte lui-même qu'il avait fait une erreur puisque maintenant c'est lui qui a repris le dossier à bras le corps. Au départ, c'était la ministre de l'Agriculture qui avait pris et Laurent Nunez qui avait pris ce sujet à bras le corps. Là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est le Premier ministre qui reprend la baguette. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une bêtise, effectivement, parce que les images sont terribles. Aujourd'hui, les Français aiment leurs policiers, les Français aiment leurs agriculteurs et on se retrouve avec ces images qui sont terribles pour la France et terribles pour les Français. Les Français n'ont pas envie de voir ces images.
Avec là aussi une fracture sociétale, on dit souvent que les Français se méfient du personnel politique. Il y a un grand fossé qui s'est créé, en particulier avec le personnel politique qui est à Paris. Alors là, je ne vais pas me faire forcément des amis, mais moins avec le personnel politique de terrain. Ça va nous amener au municipal, vous voyez la transition. Mais là aussi, on a une fracture sociétale avec les forces de l'ordre, avec les Français, avec... Comment réconcilier la France finalement ? Parce qu'on a l'impression de plusieurs Frances en une seule.
Mais aujourd'hui, le problème, c'est que cette France, elle est divisée, ça c'est clair. Il y a des divisions politiques entre la gauche, la droite, mais on voit aussi des choses, on voit des images, par exemple, la bordélisation de l'Assemblée nationale par les élus de la France insoumise. Aujourd'hui, ne donne pas confiance en la politique.
Enfin, quand vous voyez c'est le combat du RN, la France insoumise, aujourd'hui ?
Bah, aujourd'hui, c'est notre adversaire principal, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à la fin, ce sera eux ou nous. Mmh. C'est-à-dire que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont au moins, un mérite, si je puis dire, c'est qu'en fait, ils ont un projet clair, c'est la destruction de la France. Nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est redresser la France. Les autres, aujourd'hui, nous sommes à l'UMPS, on est au retour de l'UMPS. Donc, il y a la gauche d'un côté, l'extrême gauche avec la France insoumise et le Rassemblement national de l'autre, et je pense qu'à la fin, ce sera eux ou nous.
Avec les municipales qui vont être finalement quelque part aussi un test, il faut bien le dire, même si en l'espèce les électeurs, les électrices votent plutôt pour une personne plus que pour un parti, c'est souvent le cas dans le cas des élections municipales. Est-ce que pour vous cette valeur de test, ça va annoncer un petit peu ce qui se passera en 2027 ?
Oui, ça va être un test, les élections municipales, surtout dans les grandes villes, où en fait, aujourd'hui, on va
c'est plus politisé dans les grandes villes.
C'est plus politisé, oui, tout à fait. On va pouvoir, en fait, aujourd'hui, voir notre progression aussi par rapport à 2020. 2020, qui était une élection un petit peu particulière parce qu'elle avait lieu pendant l'épidémie de Covid. 2026 va être un vrai test pour le Rassemblement national, va être mis à l'épreuve locale, en fait, finalement. C'est un manque d'implantation que nous avons aujourd'hui, aussi en Bretagne. Nous souhaitons avoir énormément de conseillers municipaux en Bretagne après ces élections municipales, et ce sera un grand succès pour nous si déjà nous avons beaucoup de conseillers municipaux.
On parlait de Rennes tout à l'heure, mais on pourrait parler d'autres villes bretonnes. On estime que le Rassemblement national peut faire une percée assez historique à Rennes, terre de gauche s'il en est depuis 1977. Est-ce que il aurait été prudent d'avoir une forme d'union des droites à Rennes ?
Bah écoutez, l'union des droites avec qui ? C'est toujours ça la discussion, c'est qu'aujourd'hui...
Il n'y a pas d'union du centre et de la droite, en tout cas.
Là, aujourd'hui, l'union du centre, enfin c'est ça, en fait, c'est Karen, je crois que c'est Charles Compagnon, le candidat. Aujourd'hui, vous avez un candidat LR qui s'allie avec les macronistes. Nous, aujourd'hui, ce qu'on défend politiquement, c'est quand même tout l'inverse. On ne peut pas faire alliance avec ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Malheureusement, en politique, c'est des gens avec qui on ne peut pas travailler.
Thomas Rousseau aussi, à droite.
Oui. Non, complètement. Mais aujourd'hui, je crois qu'en plus de ça, il y a eu des tentatives de rapprochement qui ont été faites à Rennes. Je suis pas dans les petits papiers des municipales à Rennes, mais je crois qu'il y a des tentatives de rapprochement qui ont été faites, mais que ça n'a pas été au bout. C'est que aujourd'hui, nous souhaitons l'union, mais nous souhaitons l'union des patriotes. Nous ne souhaitons pas nous allier avec le centre et nous allier avec les vieux barons de LR. Ce n'est pas notre projet.
Alors justement, le Morbihan, terre que vous connaissez bien, le Morbihan est plutôt une terre de droite. On pourrait dire LR aujourd'hui. Mmh. Est-ce que là aussi, on peut arriver à une forme de bascule de la droite ? Alors, je mets les guillemets, mais vers l'extrême droite.
Pour les municipales, vous voulez dire ?
Pour les municipales ou plus généralement,
ouais.
Même.
Alors plus généralement, aujourd'hui, nous sommes le premier parti du Morbihan et loin devant. C'est-à-dire que dans énormément de communes, nous sommes arrivés en tête, que ce soit aux élections européennes comme aux élections législatives. Le centre-Bretagne aujourd'hui est un terrain qui nous est acquis électoralement, il ne nous est pas acquis pour toujours, mais j'ai envie de dire qu'il nous a fait confiance lors des dernières élections. le Morbihan aujourd'hui est déjà finalement une terre d'élection pour le Rassemblement National. Je pense que demain, la victoire de 2027 se jouera peut-être aussi en Bretagne, si nous obtenons nos premiers députés. Et, enfin, je pense que si nous obtenons le premier député en Bretagne, nous aurons certainement une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Ce qui serait un coup de tonnerre, je le disais tout à l'heure en commençant, la Bretagne est plutôt une terre qui n'est pas une terre d'élection du Rassemblement national. Comment vous expliquez cette percée ?
Aujourd'hui, les sujets que nous proposons, finalement, ce que nous proposons aux Français, c'est très simple, c'est que le programme du Rassemblement national correspond aux Bretons, parce que les Bretons sont touchés aujourd'hui ils sont touchés par l'insécurité, ils sont touchés par l'immigration. Les Français sont aussi touchés par la crise du pouvoir d'achat. Ils sont touchés par les problèmes de la ruralité. On le voit aujourd'hui avec des déserts médicaux. Moi, dans ma circonscription, par exemple, je le vois, il y a un énorme problème avec l'hôpital public, l'hôpital de Pontivy, qui a un véritable souci. Il y a des déserts médicaux. C'est vraiment tous les sujets auxquels nous apportons des réponses, et ça explique aussi la montée du Rassemblement national en Bretagne.
Vous allez avoir une obligation de réussir, parce que si vous poussez la porte du pouvoir, il y a longtemps que le Rassemblement national attend d'accéder au pouvoir, il va falloir être sur tous les fronts sans vilain jeu de mots, et il va falloir également réussir. Vous avez cette obligation de réussite après les autres gouvernances, que ce soit à gauche ou à droite ?
Bien sûr, mais en fait je pense qu'il faudrait être clair avec les Français. C'est-à-dire que nous avions demandé lors des élections législatives de 2024, si jamais nous prenions le pouvoir, de pouvoir faire un grand audit, en fait, finalement, des comptes publics. Je pense que c'est une des premières choses que nous devrons faire, et parler aux Français pour leur expliquer le véritable état du pays, pour leur dire où nous en sommes aujourd'hui.
Et, même s'il y a des choses pas agréables à entendre.
Il y aura des choses pas agréables à entendre, je peux déjà vous l'annoncer. Je pense aujourd'hui qu'effectivement, le Rassemblement national est attendu au tournant, mais nous devrons dire d'où nous partons aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la France, je pense, est en état très dangereux. Elle n'est pas encore en état de mort cérébrale, mais il est grand temps que les choses changent. Et effectivement, nous sommes attendus, mais nous saurons répondre présents dès 2027, voire avant, si le président décide autrement.
Il nous reste à peine une minute. J'avais envie de vous entendre quand même sur la situation. Je parlais tout à l'heure d'une France fracturée, d'une France violente aussi. On le voit aujourd'hui, on entend des voix qui s'élèvent pour dire si le Rassemblement national arrive, les quartiers, les banlieues vont s'enflammer. On peut imaginer aussi que l'Union européenne nous mette sous tutelle, comme ça a été le cas pour la Grèce. Vous balayez ça d'un revers de manche ou vous dites c'est quand même quelque chose qu'on a quelque part dans le coin de notre tête?
Écoutez, que les quartiers s'embrassent, c'est déjà arrivé sous Emmanuel Macron, hein. C'était il y a moins de 2 ans, donc aujourd'hui, je pense pas que c'est l'arrivée du Rassemblement national qui provoquera tout cela. Autrement, la mise sous tutelle par Bruxelles, je ne vois pas pour quelle raison. Aujourd'hui, nous avons un programme économique qui est chiffré. Il n'y a aucune raison que nous soyons mis sous tutelle par Bruxelles. Nous arriverons au pouvoir aujourd'hui avec des convictions. Nous viendrons effectivement pour changer les choses, mais il n'y a aucune raison que nous soyons mis sous tutelle par Bruxelles.
Un dernier mot sur les jeunes qui s'engagent dans la campagne. Vous y faisiez référence en commençant cet entretien. Vous êtes sur le terrain aujourd'hui, vous tractez, vous collez déjà peut-être des affiches, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Morbihanais que vous croisez ?
Les Morbihanais, aujourd'hui, il y a une attente finalement envers le Rassemblement national. Il y a beaucoup de... les gens, en fait, finalement, viennent vers nous, déjà, comme je vous le disais, en termes d'adhésion, en termes de militants, mais aussi quand on va sur les marchés, quand on va à la rencontre des gens sur le terrain directement, on a un accueil aujourd'hui qui n'est plus le même, ça c'est clair. Les gens ont une attente du Rassemblement national, mais comme vous l'avez dit, il ne faudra pas décevoir.
Antoine Oliviero, responsable du Rassemblement national de la 3e circonscription du Morbihan, délégué départemental adjoint du Rassemblement national de la jeunesse du Morbihan, était avec nous ce matin pour l'interview politique de la matinale. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.